membre du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le Canu Info du vendredi. Au menu ce soir. Alors, en local, on va parler de la grève à la métropole, du droit au logement. Voilà. Et puis ensuite, on va subtilement glisser sur le national en parlant de la lutte des mineurs étrangers isolés, des droits rechargeables du chômage, de la coupure d'eau. Et du lobby de Veolia et de Suez, les salauds. De la loi Macron, du rapport d'Amnesty International. Ensuite, dans la rubrique internationale, on parlera un tout petit peu d'une otave, des femmes kurdes, et ensuite une mini-rubrique sur le gaz de schiste, et ensuite, l'agenda. Tout à fait. Et donc, on commence maintenant, tout à fait, tout de suite, et maintenant, tout de suite, avec la grève de métropole.
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, on n'avait pas grand-chose en local, à part à l'agenda, vous allez le voir très prochainement. Mais commençons donc par la grève des employés, donc puisque on est passé au statut de métropole à Lyon. Donc comme on vous l'a parlé dans d'autres Canu Info, ça peut engendrer certains problèmes. Et là en ce moment, il y a l'ensemble des syndicats de la métropole qui ont boycotté le comité technique du 12 février concernant le temps de travail, le tableau des effectifs et le régime indemnitaire. Donc ils ont informé la vice-présidente qu'un préavis de grève serait déposé le lundi 23 mars, le jour du conseil de la métropole. Voilà, donc ils ont déposé une déclaration intersyndicale au comité technique le 12 février. Les organisations syndicales ont renvoyé le président à ses responsabilités d'employeur et de politique. Et ils se sont demandé comment peut-on rayonner internationalement avec la métropole alors que le président agit comme un monarque. Du coup, ils ont boycotté la réunion en quittant la salle et en faisant une déclaration. Et la lutte continue pour eux. Et le 10 mars, il y aura une réunion à la Bourse du Travail pour les personnels des territoires Hôtel Métropole, MDR, donc c'est les maisons du Rhône, les collèges, les musées, les services centraux. Donc le personnel technique sera informé des réunions organisées. Voilà, donc ils ont plein de revendications concernant les rémunérations et les primes, les équité de traitement du personnel à fonction égale, salaire et prime égale. Et il y a plein de choses comme ça. Voilà, donc affaire à suivre.
Et du coup, pour préciser, en fait, quand on dit qu'on est devenu une métropole, en fait, ça veut dire qu'ils ont découpé le département, en fait, qui était le département du Rhône, ce qu'on expliquait dans d'autres Canu Info, en deux choses. Donc il y a le département du Nouveau Rhône et le nouveau Rhône, c'est sans Lyon en fait et tout le grand Lyon en gros. Et donc ils ont séparé ça et ce qui est à craindre, c'est du coup une explosion des inégalités entre un Rhône qui serait le nouveau Rhône qui serait plus pauvre que la métropole, puisque c'est là où il y a toutes les activités économiques et donc toutes les rentrées d'impôts, sachant que le département, avec les lois de décentralisation, c'est eux qui gèrent toutes les politiques sociales. Voilà, voilà.
Voilà, tout à fait. Et maintenant, on va parler du droit à l'hébergement, même si ça ne concerne pas que le local. Là, c'est dans la rubrique locale parce qu'il y a une pétition des travailleurs sociaux du Rhône qui circule en ce moment, que vous pouvez signer, même si vous n'êtes pas travailleur social d'ailleurs, mais que vous êtes pour le droit à l'hébergement. Et vous pouvez la trouver sur Rébellion notamment. Le but, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui signent. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, mais aussi pour les personnes qui sont sans abri, se dégradent dans le Rhône. Du coup, il faut appeler, pour les personnes qui appellent le 115, maintenant on demande d'appeler seulement tous les 15 jours, parce que tout le dispositif est saturé. Et l'accueil inconditionnel devient de moins en moins inconditionnel puisqu'il est de plus en plus conditionné à la détention d'un titre de séjour. Voilà, du coup, il y a plusieurs choses qui font que cette pétition circule. Voilà, donc en fait, il y a le fait que... Par exemple, pour un homme seul, le délai moyen d'attente pour une place en centre d'hébergement approche maintenant une année. Que la maison de la veille sociale où sont centralisées toutes les demandes d'hébergement est complètement devenue une grosse machine. Du coup, quand on a posé un dossier à la maison de la veille sociale, après il faut appeler tous les mois, ce qui est une chose qui est pas forcément facile quand on est vraiment précaire. Après il y a cette pétition aussi parce que le SAMU social est en grande difficulté et réussit pas à avoir toutes les personnes qui sont dehors, parce qu'il y a 2000 personnes qui sont vraiment dans la rue voire plus, et il y a seulement 200 personnes qui sont accompagnées par le SAMU social. En plus du coup, là il y a des personnes qui sont orientées dans des gymnases ou dans des hôtels, donc pas du tout des places pérennes, et à chaque fois voilà, il faut faire un tri dans les personnes alors que tout le monde devrait avoir droit à ces places. Alors après, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont dans des centres d'hébergement qui pourraient avoir accès au logement autonome, mais le problème, c'est que du coup, ça manque de structures spécialisées, de structures médicales par exemple, et donc il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accéder au logement parce que normalement, elles devaient être réorientées vers des structures médicales notamment. De plus, il y a de nombreuses carences. Par exemple, il n'y a pas du tout d'établissements qui sont adaptés pour les personnes sans abri qui sont en situation de handicap, où il y a très très peu de structures qui accueillent des animaux et aucune n'est adaptée à un public transsexuel. Et il y a également très très peu de solutions d'orientation à la sortie d'hôpitaux, de cure et même à la sortie d'incarcération. Du coup, ce manque de place amène à des non-sens comme laisser des personnes hospitalisées au prix de journée très élevé dans les hôpitaux, alors que du coup, elles ne devraient plus être hospitalisées mais aller dans d'autres centres, mais il n'y a pas de place. Et il y a aussi, par exemple, des assistantes sociales qui demandent des placements d'enfants parce que les enfants se trouvent dans la rue alors qu'il n'y a pas un problème de protection de l'enfance, mais c'est juste un problème de logement en fait, ce qu'entraîne des traumatismes dans les familles qui sont les parents sont séparés de leurs enfants juste à cause du problème de logement. Donc c'est des problèmes qui entraînent d'autres problèmes.
Et ça du coup en plus c'est d'autant plus scandaleux que même la loi française elle est censée interdire le fait de séparer des parents et des enfants pour des raisons économiques, et en fait ils se contredisent encore là-dedans, où on voit qu'ils disent un truc d'un côté et de l'autre côté bah les politiques font que on va séparer des parents de leurs enfants pour pas héberger les parents quoi.
Et en plus, du coup, là, dans le cadre du plan froid, il y a plein de familles qui ont été orientées dans des locaux qui sont à la Charbonnière. Du coup, c'est des enfants qui sont scolarisés sur Lyon. Du coup, ils mettent une heure et demie pour aller dans leurs écoles. Et ça, enfin, ça fait encore ce truc de mettre des bâtons dans les roues des gens et qu'ils n'arrivent pas. Enfin, ça les c'est hyper fatigant et chiant pour eux, quoi.
Et par exemple, là, sur les locaux à Charbonnière, faut imaginer que, en fait, la politique d'hébergement, elle est aussi scandaleuse dans le fait que c'est mettre le minimum de moyens possible. Et par exemple, à Charbonnière, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bâtiments de la région, du conseil général, qui sont vides. Et l'État décide, et le département et la région, de ne pas héberger les gens dans ces bâtiments vides où ils pourraient être au chaud avec des couloirs entre les chambres, etc. Et ils ont préféré mettre dehors, dans la boue, des jolis mobilhomes pour vraiment faire un truc encore plus ghetto qu'ils pourraient faire et pas réquisitionner leur propre logement, quoi.
Et après, en plus, comme maintenant, du coup, il y a vraiment un tri dans les personnes qui doivent être le plus prioritaires, alors que tout le monde devrait avoir droit à l'hébergement. Du coup, ça casse aussi le secret professionnel. Et notamment, bah, là, il y a le 115 qui demande la nationalité, l'ancienneté sur le territoire français, le titre de séjour. Et à la maison de la veille sociale, les travailleurs sociaux doivent décliner le motif du titre de séjour vie privée, vie familiale. Du coup, il faut dire pourquoi la personne a fait une demande de régularisation. Donc souvent, c'est au titre de la santé. Du coup, ils doivent justifier de leurs problèmes de santé, alors qu'à la base, c'est tenu secret, quoi. Voilà. Et voilà, quoi. Du coup, il n'y a pas du tout d'inconditionnalité dans l'accueil. C'est ça qui est terrible et qui fait que ça met tout le monde dans des positions inconfortables. Et en plus, il y a vraiment très peu de fluidité dans le système d'hébergement. Du coup, une personne qui va péter un câble dans un centre d'hébergement va être blacklistée sur tous les dispositifs de l'hébergement d'urgence. Du coup, elle a une chance et après, elle a plus de chance du tout. Et si elle reçoit une proposition de la maison de la veille sociale et qu'elle la refuse parce que c'est une solution pas adaptée, et ben après, elle a le droit à plus aucune chance, quoi. Et il y a le logiciel de gestion de la demande Progédis, ça s'appelle, où c'est écrit tout le parcours d'hébergement de la personne, tout ce qui s'est passé pour elle. Il y a certains centres d'hébergement qui mettent une condition de soins ou une mise en place de tutelle pour entrer dans les structures. Alors qu'à la base, normalement, c'est pas possible, ça, quoi, de demander que la personne ait une injonction de soins.
Et voilà. Et moi, c'est ce qui me semble intéressant, c'est dans cette pétition, c'est que c'est pas une pétition juste pour dire, il faut des hébergements pour tout le monde, c'est que ça rappelle aussi que les hébergements sont inadaptés. Et qu'en fait, c'est une double critique qui est proposée, c'est de dire à la fois, il n'y a pas assez de place et c'est vraiment, c'est abusé de laisser des gens dormir dehors. Et en plus, dans ce qui existe et dans la manière dont c'est fait, ça répond même pas aux besoins des personnes. Et peut-être que, je sais pas, tu peux peut-être nous préciser un peu, parce que là, c'est sur l'hébergement, du coup, c'est le droit à l'hébergement. Et est-ce que tu sais ce que c'est, enfin, il y a une différence avec le droit au logement, parce que là, c'est plus centré là-dessus ou...
Eh ben, le droit au logement, c'est, disons que le droit au logement, c'est pas inconditionnel. Normalement, pour le logement, t'es obligé d'avoir un droit de séjour à la base, quoi.
Ouais, donc en fait, c'est ça, ce qu'ils appellent l'inconditionnalité, c'est notamment autour des papiers, à la base, dans les textes de loi.
Mais en fait, déjà, dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a beaucoup de personnes qui ont des titres de séjour, mais qui n'ont pas forcément le droit de travailler ou qui n'ont pas forcément de ressources, même s'ils sont autonomes et qui pourraient très bien être en logement. Du coup, ils n'arrivent pas à accéder au logement parce que, on les empêche par d'autres biais, quoi. Du coup, c'est bloqué à tous les niveaux.
Ok, et du coup, après, toujours un truc qui est bon à rappeler là-dessus, c'est ce truc de la logique absurde, en fait, où on va demander le plus à ceux qui sont le plus dans la galère. Et du coup, ce parcours, essayer d'appeler le 115 un jour, c'est vraiment un truc de fou. Les gens leur demandent d'appeler tous les jours. Et du coup, en fait, ça fait qu'il y a plein de gens qui se découragent. Et c'est aussi ce jeu des statistiques qui vont faire qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent d'appeler le 115 parce qu'ils y croient plus et parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de place par ce biais-là. Et du coup, ça permet à eux de jouer avec les statistiques. Donc déjà, eux, ils en cachent une partie. Ils disent pas tous les gens qui sont dehors ce qu'ils savent. Et en plus, le système même de comptabilité par le biais du 115 fait que les gens se découragent, qu'on va mettre en concurrence les plus pauvres et les plus démunis entre eux, et qu'on va jouer sur les statistiques et responsabiliser en fait des gens d'une misère qui leur appartient pas.
C'est pour ça que du coup qu'il y a cette pétition à signer, donc qui est en lien sur Rébellion, donc vraiment pour qu'il y ait plus de place dans l'hébergement.
Et du coup, on va s'écouter un petit morceau de musique de rap, c'est de Brave. La chanson, elle s'appelle Prolétaire, et on vous la met parce qu'elle reprend un chouette discours qui avait été fait par l'abbé Pierre au sujet du droit à l'hébergement, du droit au logement et des gens qui restent dans la rue.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Aucun de vous ne pourra dire au contraire, notre histoire est dans le mur, je ne serai rien sans le secours populaire, c'est sûr, à terre comme d'habitude, venu végir l'amertume des prolétaires exclus, ici l'espoir s'appelle PMU, issu des pauvres, ma rancœur est légitime, je suis ce bourgeois, ce que les noirs sont aux skins, aussi sincère que les paroles d'un alcoolique, j'évacue mon fardeau en remplissant des verres. Oublie l'amour, y'a pas de serrure à cette porte. L'argent ne fait pas le bonheur, je porte les clodos se révoltent. Comme le pouvoir d'achat, ma race en chute libre. Si la faim fait des déterminés, je chante encore le ventre vide. De force, ils maintiennent nos têtes sous l'eau, leurs poches déportent. On s'enlise les minima sociaux. Prolonge, bien sûr, nos portes sont closes. Les restaurants du cœur sont le paradis des pauvres. De la frange, j'en suis la face cachée. Les résidents entassés dans d'immenses têtes. Sans argent, leur famille noyée dans les têtes. Constamment ignorée. Même si on m'en dit clair, juste qu'ils appellent un déchet à qui on lance des miettes. Inexistant, méprisé, blanc, arabe ou nègre. Évidemment, le décès, c'est ce qu'ils nous souhaitent. Ils devraient s'en inquiéter. Prolétaires, marche ou grève.
Prolétariat, les rats et sous-sang. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétariat, les rats fait pour nous. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. C'est pas le reste du monde, on m'a appris à se relever solidement. Ce monde est trop inquiétant. Les richesses dans les caisses de la France, c'est l'argent des ouvriers dans le surendettement. Je suis un prolétaire avec le sens de l'acharnement. Aussi vrai que mes semblables puent le désespoir. Chez nous la réussite c'est être smicard. Si l'argent nous fuit, du ciel lui n'est jamais en retard. La misère c'est le fric des politicards. Tricard car France est de souche brûlée. Mise à l'écart, rien de la casse, de la classe, de des ouvriers. Mon quotidien en carence. Je viens du Havre où même la mer fait la manche. Prolétariat, pour ôter rien. Pour l'état, y'a l'élite et les babouins. Aussi des conseillers que des chiottes publiques. I'm prolétaire, donc panique.
Prolétariat, les rats et sous-sang. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, projeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétariat, les rats et pour nous. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, projeté par le reste du monde. On m'a appris à se rendre. Les consoles du monde m'aident. RMI, RSA, ABS, EMU, CAF, AM. E, A, B, I, F, X, L, M, P, A, L, C, R, C, G, T, S, C, F, S, O, S, en toute détresse, je mène le même combat qu'Henri Grouès.
Des cafards comme colocataires, ma race est celle d'en bas qui dans les galères se moque. Reste par terre, crois-moi, frère, pas de fraîche, pas droit. Leur salaire fait notre poids. J'étais précaire bien avant de faire du peu. Race n'est pas des rois, on est bien au HLM, APL comme partenaire. Notre roi rara, terre, aucun remède. Prolétaire ou indigène, habitué des dettes. L'argent n'a pas d'odeur, mère, mes mains, elles sentent la merde. Même le ventre à terre, je resterai des terres. Venu faire des inégalités, ma guerre. Donne-moi un pic, je dynamite leur gratin. Donne-moi une arme, je fais de l'art contemporain. Le macadam est dans ma peau. Mes blessures le confirment, mes pauvres. J'suis ghetto, puis l'époque d'Alpha Blondie qui a l'écho, a des excuses solides. La fin justifie le braco. Brave comme Bendit.
Prolétariat, les rats des sous-sang. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, projeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétariat, les rats des pornoms. Prolétariat, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, c'est par le reste du monde, on m'a appris à se relever seul. Prolétariat,
bravo,
prolétariat.
Rolo, Rolo, Roletaria, Team Record.
Et voilà, du coup, c'était Brave Prolétaire. Alors, du coup, on reste un petit peu sur cette thématique. On passe dans la rubrique nationale, mais on reste sur la thématique des gens en galère et des gens à la rue, en relayant une info qui est parue aujourd'hui sur Paris Lutte Info à propos de la lutte des jeunes isolés étrangers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était hier. Donc, en fait, hier, il y a la PAOMI. Alors, la PAOMI, qu'est-ce que c'est? C'est un sigle et ça signifie la permanence d'accueil des mineurs isolés étrangers, qui a été occupée, en fait, toute la journée de jeudi et qui a été expulsée au soir par la police.
Alors, est-ce que tu veux nous expliquer déjà ce que c'est les mineurs isolés, cette catégorie?
Ouais, alors, en fait, les mineurs isolés, c'est une catégorie qui est apparue dans les années 2000. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aurait, enfin, cette catégorie, elle a été créée par l'État parce que selon l'OIE, il y aurait des vagues, en fait, de migrants qui serait arrivé, qui change un petit peu du profil des migrants avant, qui seraient les jeunes en fait sans parents, en fait des mineurs sans parents et qui sont pas accompagnés, qui seraient arrivés sur le territoire français. Et donc en fait, alors normalement, dans le droit français, vu que c'est des mineurs, ils devraient être pris en charge par la protection de l'enfance et mis sous tutelle de l'État. Mais ils ont créé en fait une catégorie particulière, et quand on crée une catégorie particulière, qu'est-ce qu'on fait? On crée des dispositifs particuliers. C'est la logique de créer des catégories et de mettre les gens dans les catégories. Et donc en fait, ils ont créé la catégorie de mineurs isolés étrangers. Donc avoir moins de 18 ans, venir sans sa famille et du coup venir de l'étranger. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dispositifs spécifiques et que ces jeunes-là, ils sont soumis à des logiques qui sont des logiques autres que les logiques de la protection de l'enfance qui sont critiquables. Mais là, en fait, c'est encore pire parce que quand on dit qu'on va faire une catégorie de jeunes mineurs isolés étrangers, ça veut dire qu'on va parler pour les décideurs de gestion des flux, en fait. De gestion du flux migratoire. Enfin, c'est toujours ce truc de l'immigré qui vient envahir, de l'immigré qui arrive sur le sol en masse, etc. Et donc là, en fait, ça, ils restent suivis au titre de la protection de l'enfance, mais ils vont être soumis à des logiques de gestion des flux, donc ça veut dire à des logiques de faire la pression sur la prise en charge, de les mettre dans des dispositifs particuliers, etc. Et donc,
En sachant qu'en plus, du coup, comme maintenant ils ont l'impression qu'il y avait trop de mineurs isolés, ils font des tests osseux pour vérifier que les personnes sont bien mineures, mais les tests osseux, c'est très fluctuant, enfin, c'est pas précis. Et du coup, ils disent, ah bah non, vous êtes majeur, alors que la personne peut être mineure quand même. Quoi.
Parce que du coup, les tests osseux, en fait, ils vont faire des radios des personnes. Et à partir de ces radios, ils ont des espèces de... Alors, je sais pas ce que c'est, ils doivent avoir des espèces de grilles avec des tailles d'os, la porosité, etc. Et ils sont censés trouver l'âge. Et ça, en fait, c'est des grilles qui ont été faites sur des modèles, je crois, occidentaux et qui correspondent pas du tout, déjà selon les pays occidentaux et en plus selon les régions du monde ou même les parcours de vie, ça évolue. Et puis, alors, ils vont essayer de savoir à un an près si le mineur est arrivé sur le territoire ou pas. Parce que du coup, en fait, ça offre des droits particuliers. Et du coup, ils essayent de gérer les flux. Donc, comment ils vont faire pour fermer ces droits-là à des gens qui seraient des fraudeurs de l'immigration? Et donc, un des dispositifs qui émane de tout ça, c'est tous les trucs qui finissent en « mi ». Alors, « mi », pourquoi? Ça veut dire « mineur isolé étranger ». Donc, à Paris, c'est la PAOMI, la permanence d'accueil des mineurs isolés étrangers. À Lyon, c'est « MEOMI ». Alors, je sais plus exactement ce que c'est, mais voilà. Quand vous entendez « mi » dans un dispositif social, souvent, ça s'adresse à ces mineurs isolés étrangers. Et donc, il y a des mineurs et des militants qui sont allés occuper donc la PAOMI de Paris, donc le centre qui est censé les accueillir et faire le tri dans les dossiers. Et pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu cette mobilisation spontanée de gens en fait qui d'habitude ne se mobilisent pas? Parce que c'est un peu des gens qui sont tout en bas de la société, qui arrivent, qui sont éparpillés, qui sont bien dans la merde et qui ont du mal à se mobiliser. C'est parce qu'en fait, il y a un de leurs amis qui venait de perdre un œil, faute de traitement. Parce qu'en fait, dans les dispositifs, pour pas trop en donner, etc., ils avaient pas prévenu le jeune qui pouvait bénéficier de l'aide médicale d'État. Donc il s'est pas soigné, il a perdu un œil. Et en même temps, il y a un autre mineur qui venait d'être placé au CRA à Lille. Donc voilà, en fait,
le
ils sont
CRA,
allés.
CRA, c'est le centre de rétention administrative.
Donc en fait, c'est où on met les gens qui ont pas de papier et qui sont sur le territoire de manière illégale. C'est comme ça qu'ils disent, je crois. Voilà. Et du coup, donc ils ont occupé ça, ils se sont fait virer ensuite par les flics. Donc nous, on voulait relayer cette info parce que, enfin, c'est une lutte importante déjà du fait qu'elle ait lieu. Et même si c'est à Paris, en fait, ça fait naître d'autres luttes, puisqu'en fait, il y a des manifs qui sont prévus le samedi 7 mars à Paris. Et il y en aura deux, en fait, une pour les lycéens sans abri et une pour les jeunes mineurs isolés l'après-midi à 14h. La première, elle est le matin. Et du coup, alors là, c'est encore aussi intéressant de regarder comment ils réagissent à ça. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé, en fait, le lendemain, vendredi, donc ce matin, ils ont fermé Paumi. Donc ils n'ont pas laissé les jeunes rentrer dedans et du coup ils distribuaient les dossiers d'inscription sur le trottoir, etc. Donc voilà comment ils réagissent et ça montre aussi que c'est une mobilisation qui les a bien fait flipper et qui les a surpris. Donc on espère qu'elle va continuer à Paris et qu'elle puisse naître aussi dans d'autres villes, dans d'autres régions, à Lyon notamment. Voilà pour l'info.
Ok, et bien maintenant on va parler de l'assurance chômage. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé dans les Cagnon Info d'une convention d'assurance chômage qui avait été signée le 22 mars 2014 par la CFDT, FO et la CFTC et qui était censée améliorer l'indemnisation des chômeurs. Du coup elle a été appliquée dès septembre. Dans les médias, ça a été beaucoup relayé comme une lutte des intermittents du spectacle. Enfin, c'était pas clair que ça concernait en fait tous les chômeurs. C'était plus relayé comme quelque chose qui concernait les intermittents du spectacle parce que il y a un bout sur les intermittents du spectacle, mais en fait, ça a changé en fait le calcul des droits au chômage pour tout le monde en fait. Du coup, là maintenant, il y a syndicats et patronats qui ont prévu de se retrouver pour discuter d'un des effets pervers de cette convention de l'assurance chômage. Voilà, donc le 3 mars, il y a une négociation entre syndicats et patronats qui devrait se pencher à nouveau sur les problèmes des droits rechargeables. Alors, qu'est-ce que c'est les droits rechargeables? C'est que du coup, c'est un nouveau calcul depuis du coup septembre qui est appliqué de comment on a droit au chômage. Du coup, par exemple, pour une personne qui a travaillé à mi-temps pendant, six mois, puis après à tout plein, en fait, ça fait que quand elle est au chômage, elle a d'abord droit à des droits au chômage qui sont calculés sur la période où elle était à mi-temps, puis sur la période où elle était à plein temps. En fait, du coup, c'est complètement moins bien que ce que c'était avant, quoi, parce qu'elle gagne moins. Voilà, parce que ça dépend vraiment de comment elle a travaillé, de tout son cursus. Ça prend pas en compte les meilleures périodes où elle a le plus gagné, ce qui était le cas avant septembre. Du coup, les syndicats avaient en mars défendu bec et ongles ce dispositif parce que c'était présenté comme un progrès pour les demandeurs d'emploi et les droits rechargeables devaient être la contrepartie positive de la convention. Parce que dans la convention, il fallait faire avaler la pilule de 830 millions d'euros d'économies effectuées sur le dos des chômeurs. Et le 16 janvier, l'UNEDIC, l'organisme de gestion paritaire de l'assurance chômage, publiait une note qui prouvait que 30 000 personnes par an seraient moins bien indemnisées depuis que cette réforme a eu lieu. Du coup, c'est déjà un chiffre qui est en dessous de la réalité. La CGT a exhumé une note de juin 2014 de l'organisme prouvant que 500 000 personnes seraient concernées dans un premier temps par une baisse de leurs droits. Lors de la concertation sur les intermittents et face à la montée de la contestation, Manuel Valls avait annoncé que la question des droits rechargeables serait examinée. Gênés aux entournures, les syndicats signataires de la convention sont contraints de se remettre autour de la table. Et pour la CGT, du coup, il y a urgence à changer les règles. Du coup, il y a Jean-Pierre Antoine de la CGT Chômeurs qui dit « Nous proposons de revenir au système antérieur de réadmission, cumul de deux périodes d'indemnisation en prenant la plus favorable, mais en allongeant la durée d'indemnisation. » Mais du coup, ils savent que le MEDEF va vouloir négocier à coût constant. Et du coup, pour le secrétaire général de la CGT Spectacle, il faut au minimum un droit d'option, donc laisser le choix au demandeur d'emploi de renoncer à sa période d'indemnisation la plus faible. Et on craint que certains ne veuillent régler que partiellement cette question des droits rechargeables. Du coup, voilà, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et le 3 mars, il y a une mobilisation nationale qui sera organisée par l'appel du syndicat dans les agences de Pôle emploi. En parallèle, il y a des recours en ce moment pour annuler la convention. Voilà, donc saisie par la CGT pour déloyauté des négociations, la Cour d'appel de Paris se prononcera le 12 mars. La procédure auprès du Conseil d'État, elle, suit toujours son cours. Mais voilà, quoi. Du coup, on va voir ce qui va se passer. Et le gouvernement, qui est un peu obsédé par les déficits de l'UNEDIC, qui est de 4,4 milliards d'euros en 2015, serait déjà en train de réfléchir à une renégociation de la convention avant la fin de son échéance mi-2016. Voilà, bon, ben, du coup, il y a des mobilisations à faire pour le droit des chômeurs et chômeuses.
Et du coup, c'est d'autant plus important de se mobiliser, parce que là, encore une fois, c'est ce vieux truc. En fait, ils ont réussi à faire passer leur réforme en divisant les gens. Et je sais pas si vous vous souvenez, en juin dernier, enfin, c'était ça, hein, c'était juste avant l'été. Alors, déjà, le truc qui passe juste avant l'été. Et en plus, en tapant bien sur les gens du spectacle, parce que voilà, c'est les troubadours, c'est les chômeurs, ils sentent la transpi, ils boivent de la bière. Et à côté de ça, c'est une réforme qui va toucher tous les précaires. Et en plus, enfin, c'est un truc, quand on veut s'intéresser, on comprend quasiment rien. Enfin, c'est vraiment le brouhaha des droits. Et du coup, il y a ces mobilisations-là. Et s'il y en a qui sont dans la galère, il y a des collectifs de chômeurs qui existent dans plusieurs villes. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur Internet ou à l'autre bout du monde, rapprochez-vous de vos collectifs de chômeurs. Et sinon, à Lyon, il y a la CGT précaire et privée d'emploi.
Et à Paris, il y a aussi la coordination des intermittents précaires. Et il y a beaucoup de textes. Donc, par exemple, vous tapez CIP Paris sur Internet et il y a plein de textes pour le droit des chômeurs, le droit des précaires là-dessus. Et voilà, c'est vraiment une réforme qui est passée vraiment finalement en silence parce que il y a peu de gens qui se sentaient concernés alors que ça concernait vraiment beaucoup de gens, cette histoire de convention.
Et concrètement, du coup, dans les collectifs de chômeurs, c'est aussi des lieux où vous pouvez vous organiser pour faire respecter vos droits quand vous les comprenez pas, pour essayer de les comprendre à plusieurs et pour après aller mettre des gros coups de pression au Pôle emploi. Et généralement, c'est des démarches qui payent, quoi. Et les dernières années à Lyon, elles ont payé pour faire évoluer les droits des gens qui étaient acculés par le Pôle emploi. Et en parlant de réforme qui est passée dans le silence, la queue du chat balance, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les coupures d'eau. Parce que, souvenez-vous, depuis près de 2 ans, les coupures d'eau, elles étaient interdites en France, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Donc ça, c'était c'était une disposition de la loi Brottes de 2013, selon le calendrier qu'annonce la naissance du petit Jésus. Donc 2013 ans après la naissance du petit Jésus, il y avait cette loi qui fait qu'en fait, on pouvait plus couper l'eau, parce qu'il y avait un droit, en fait, qui avait été reconnu par les Nations Unies, le droit à l'eau. Parce que couper l'eau à quelqu'un, en gros, c'est de pas lui laisser la possibilité de vivre. Alors en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu cette loi et bien sûr les grandes entreprises de l'eau, parce que maintenant c'est des entreprises qui nous vendent notre propre eau, bah continuaient à couper l'eau. Alors, il y a eu des associations comme France Liberté, la coordination Eau Île-de-France, qui ont fait plein de procès et qui ont gagné ces procès face aux coupures d'eau illégales. Et bien sûr, le patronat allait-il en rester là? Eh ben non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, le lobby de l'eau, donc, ils ont fait une proposition d'amendement. Et alors, le lobby de l'eau, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est en gros, c'est les grosses entreprises, Veolia, Suez, qui sont relayées par des députés UMP, tiens, c'est original, et en lien aussi avec la Lyonnaise des Eaux, enfin, vraiment, toutes les grosses entreprises qui nous vendent la flotte. Et du coup, il y a un certain Christian Cambon, qui du coup est un sénateur maire UMP, qui a proposé un amendement, et pour réaffirmer la logique marchande autour de l'eau. Et du coup, le but de cet amendement, c'est faire qu'on puisse couper l'eau à tout le monde, sauf aux gens qui sont bénéficiaires des aides sociales. Et on vous le donne dans le mille, cet amendement a été adopté par le Sénat mercredi, donc pas celui-là, le dernier. Et pour plus d'infos, vous pouvez aller voir, il y a une petite brève sur le site Bastamag pour avoir plus d'infos sur ces coupures d'eau.
Très bien, et maintenant on passe à la loi Macron. Macron, donc qui est passé aussi, mais du coup, c'est aussi un fourre-tout de plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on n'y comprend rien. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé un article qui sélectionnait 5 mesures où, qui nous explique un peu ce que c'est la loi Macron. Du coup, dans les 5 mesures, on comprend bien du coup que c'est encore des trucs qui font qu'on a encore moins de droits du travail. Notamment, il y a la suppression de la représentation des prolétaires dans les entreprises et dans les prud'hommes, la simplification des procédures de licenciement et bien sûr l'extension du travail du dimanche et de nuit. Du coup, pour la mise à pas des prud'hommes, il y a une mesure. Et donc, c'est le président de la Cour d'appel qui désignera les conseillers prud'homaux sous proposition des syndicats. Il pourra sanctionner un conseiller s'il ne l'estime pas assez impartial. Celui-ci sera tenu d'adopter un comportement visant à écarter tout doute légitime à cet égard. Il lui est aussi interdit d'avoir une activité de militant syndical. En cas de problème de fonctionnement, un juge professionnel avec le président et le vice-président du conseil des prud'hommes remplaceront le conseil. Ensuite, sur l'augmentation du travail le dimanche. Ministres, préfets et maires pourront accorder des dérogations au repos du dimanche dans les zones internationales, touristiques, commerciales et dans les gares, ou simplement s'il y a un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'établissement. Du coup, les petites entreprises n'auront pas à payer des augmentations de salaire à condition de signer un accord avec les syndicats ou organiser un référendum dont on se doute de l'issue. Les salariés volontaires, entre guillemets, subiront le plus cette loi, seront surtout les femmes les plus touchées par les contrats précaires et les temps partiels. Voilà, après avec la loi Macron, il y a aussi la quasi-légalisation des délits patronaux, puisque les sanctions pénales seront remplacées par des amendes. Du coup, l'employeur qui a commis un délit n'aura plus nécessairement à s'exprimer publiquement devant un juge, mais à négocier le montant de la sanction avec la directe. La directe, c'est le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, du coup, qui ne sont pas vraiment indépendants du patronat, quoi. Et du coup, par exemple, un patron pourra choisir de payer une amende plutôt que de risquer un conflit social en informant normalement le comité d'entreprise d'un plan de licenciement. Du coup, en gros, cela revient à légaliser les délits patronaux, quoi. Le patron n'aura qu'à acheter le droit de commettre n'importe lequel des délits, quoi. Ensuite, un autre point, c'est le développement du travail gratuit pour les personnes handicapées. Alors, les patrons pourront faire appel à des travailleurs ou travailleuses handicapées venant faire une mise en situation en milieu professionnel. Du coup, les personnes handicapées ne seront pas payées et aucune obligation d'embauche ne suivra. Donc, ça remplacera l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. Parce que jusqu'à présent, il y a une loi qui oblige les entreprises à embaucher un certain nombre de personnes travailleuses handicapées selon le nombre de salariés global dans l'entreprise. Mais maintenant, voilà, c'est fini. L'obligation de salarié des personnes handicapées ne va plus exister puisque maintenant, on va pouvoir faire des stages gratos à durée déterminée spécialement prévus pour les personnes handicapées.
Et ben voilà des super super bonnes nouvelles.
Et encore un point de la loi Macron, c'est l'attaque massive contre les maigres protections incluses dans le droit du travail. Du coup, tout accord employeur-employé primera sur le droit du travail. Par exemple, travailler le dimanche, la nuit, 12 heures par jour, 60 heures par semaine. Pour un demi-SMIC, du moment que le salarié est d'accord. Sauf qu'à quel moment t'es d'accord quand t'es précaire, c'est toujours la question. Bref, pour les capitalistes, les institutions paritaires sont un frein à la restauration du taux de profit. Et il s'agit de liquider les dernières formes de représentation ouvrière dans les institutions pour mettre fin aux conventions collectives et autres compromis. Du coup, c'est globalement une précarisation du travail et la facilitation des licenciements qui sont prévus dans cette loi Macron. Voilà, donc encore des bonnes raisons de lutter et d'essayer de garder un minimum les dernières choses qui nous restent dans le droit du travail, quoi.
Eh ben super, super, que des bonnes nouvelles. Du coup, on va vous faire écouter un petit morceau qui parle de la police. Et puis après, on va vous parler du fait que la police aussi nous tape dessus. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse que taper sur nos droits.
J'ai besoin de vos lits, de sortir de la brume des usines et leur fumée. Entre le marteau et l'enclume, j'ai parfois besoin de respirer. Non, je n'ai jamais une tune, mais j'ai en moi de quoi vibrer. Car le game music entre dans tous les quartiers. Et si on la technique pour faire bouger dans les soirées, ni les tards, ni les flics ne pourront en empêcher. On le fait pas de politique, mais on revient pour les clasher. C'est d'un... On se bat pour la prévoyance, on se bat pour la justice, l'égalité et l'unité. Tout le monde est armé, mais comment faire un cabinet?
Et voilà, et du coup c'était un petit mix de Dubamix bien sûr sur la police, et Dubamix c'est des mix militants, vous pouvez retrouver tout gratuitement en ligne. Et pourquoi on vous a mis du son sur la police? Pas juste parce qu'on les aime pas, parce qu'on a des bonnes raisons de pas les aimer, puisqu'il y a un nouveau rapport d'Amnesty International qui est sorti aujourd'hui et qui tacle entre autres l'État français. Donc Amnesty International, ils viennent de publier un rapport, donc c'est relayé sur Paris Lutte Info, et en fait Paris Lutte Info ils ont fait un résumé de ce qui était dit par rapport à la situation en France, donc ils soulèvent plusieurs points qui sont pointés par Amnesty International. Alors le premier, c'est pas original, c'est la discrimination des minorités en France. Ils évoquent surtout les affaires face à la population rome et avec les expulsions de camps. Après, ils dénoncent aussi les droits des personnes réfugiées et migrantes qui subissent des grosses pressions, notamment à Calais, on en avait parlé dans d'autres Canu Info. Donc de toutes les pressions et de tous les tabassages en règle qui peuvent être organisés à Calais, ou encore par rapport aux populations LGBT ou musulmanes. Et c'est pas fini, parce qu'il souligne aussi le fait que la question de la liberté de réunion est remise en question. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal de manifs en ce moment ces derniers temps qui ont été interdites, et notamment par la préfecture de police de Paris, des manifs en soutien au peuple palestinien. Voilà. Du coup, Amnesty International, il souligne que c'est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. Et aussi, il y a un thème qui est soulevé, on va peut-être s'arrêter un petit peu plus, c'est le terme des violences des forces de police et de sécurité. Donc ça, c'est encore pas nouveau, on vous en parle souvent. Et Amnesty International avait déjà fait un rapport là-dessus en 2009. Mais c'est la même chose, en fait, c'est que les flics, ils sont au-dessus des lois. Et eux, ils s'appuient, en fait, sur trois affaires qui sont passées dans les dernières années et qui montrent ça. Donc il y a l'affaire Alizeri. Donc l'affaire Alizeri, c'était un gars en 2009 qui avait 69 ans, qui est décédé asphyxié après son interpellation par la police nationale, donc c'était à Argenteuil, lors d'un contrôle routier. Donc en fait, les vidéos de surveillance, ils le montrent rentrer dans le commissariat, et après le gars, il sort mort, et bien sûr, les policiers ont été acquittés puisqu'il y a eu un non-lieu. Donc un non-lieu sur un gars de 69 ans qu'on étouffe dans un commissariat. Il parle, le deuxième événement qu'il cite, c'est les blessures de Raymond Gurem. Donc ça, c'était lors de l'expulsion d'un camp de Rome. Et Raymond Gurem, c'est un militant, en fait, un ancien résistant qui avait 89 ans, enfin qui a 89 ans, et qui avait publié un livre sur les luttes des Roms, et qui anime une émission de radio qui s'appelle L'Actu des Luttes, et qui lui a été tabassé pendant l'expulsion d'un camp. Et ils reviennent aussi sur la mort toute récente, donc du 26 octobre, de Rémi Fraisse. Et on va faire comme Paris Lutte Info, on va en profiter pour relayer un appel à rassemblement qui a lieu à Rennes du 16 au 20 mars. Pourquoi ? Parce qu'il y a les policiers qui ont été mis en cause suite à la mort de Zied et Bouana en 2005, qui vont passer en procès. Donc voilà, donc c'est encore bien longtemps après les faits, donc il y aura ce procès-là. Pendant toute la semaine du procès, donc du 16 au 20 mars à Rennes, il y aura devant le tribunal des cantines et des rassemblements avec des lieux de discussion et des points infos, et il y aura une manifestation le mercredi 18 mars. Et sinon, pour toutes ces infos sur les violences policières, vous pouvez aller lire Résistons Ensemble, qui paraît tous les mois, je crois, ou aller choper le rapport d'Amnesty International, ou faire un tour sur Paris Lutte Info, qui résume ce rapport et ce qui est dit par rapport à la France.
Mais tout à fait, Jean-Pierre. Alors maintenant, sans transition, on va passer à la rubrique internationale où on va parler de la lutte du NOTAV, donc le train à grande vitesse. Alors, c'est une lutte qui existe depuis 2005, surtout en Italie pour le moment, mais ça va changer, ça va être de partout. Mais pendant ce temps, Hollande et Renzi annoncent le lancement du projet ultra contesté, alors que la lutte continue de partout. François Hollande et le président du Conseil italien, Matteo Renzi, ont annoncé mardi le lancement des travaux de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin à partir de 2016. Et il y a même les travaux qui étaient censés commencer à Saint-Martin-la-Porte en Maurienne dès janvier 2015. Donc cette autoroute ferroviaire mixte, fret et voyageurs, lancée en 1991 et maintes fois ajournée, devrait entrer en vigueur en 2028-2029. Enfin, on espère qu'elle va pas rentrer en vigueur, surtout. Et pourtant, le projet reste vivement contesté des deux côtés des Alpes, notamment pour son coût extrême, 26 milliards d'euros, et son impact environnemental. Du coup, la France et l'Italie ont déposé une demande de financement européen à hauteur de 40%. Du coup, pour les écologistes et d'autres personnes, il s'agit d'un projet du siècle dernier qui ne répond plus aux besoins pointés par la faible rentabilité économique en plus. Et en parallèle, et suite à la plainte déposée par deux députés d'Europe Écologie, l'OLAF, l'Office Antifraude Européen, il y a une enquête qui a été ouverte le 5 février dernier sur la base de documents fournis par les opposants. Bon, bref, face à ça, la résistance continue. Il y a une marche qui est organisée en juillet entre Lyon et le Val de Suse pour essayer encore d'arrêter ce projet qui est complètement absurde. Eh oui, et maintenant on pourrait peut-être parler du gaz de schiste.
Tout à fait, c'était pas prévu dans ce sens-là. Alors, parlons un peu du gaz de schiste, tout à fait. Alors attends, je reprends mes notes.
C'est notre envoyé spécial, il vient d'arriver, du coup...
Tu peux lancer la musique.
Je suis un peu surpris. Non, mais... La musique arrive après. Ah non, arrive avant même, tout à fait. On peut vous mettre une toute petite musique. Alors qui vient d'Insala, c'est un rap, c'est un groupe qui vient d'Insala. Insala qui est le un groupe de rap du coup local d'Insala,
comme qui est en Algérie bien sûr, Insala,
et qui a fait une petite chanson spéciale contre le gaz de schiste, parce que là-bas en fait il y a une grosse mobilisation contre l'exploitation du gaz de schiste qui a été mise en place par le gouvernement algérien. Et donc voilà, donc on va se passer cette petite musique et puis après on parlera un petit peu plus en détail. Voilà, tout de suite la musique.
فات فيت فيت اوني شيت ورا ورجعك شغل ما مشى كلشي في بلاصتو ورجع عمر عام فاس فاس ما كما تبدل ارسالت الهمه كما تسكب في بلاد عندال احسن تجري في بلاصه الدم مالاش في دوله كلش طافي برك عايشين في الصحراء صافي ماشيه والله الكافي العقره زاد صدق زعافي الهام رانا دورو بعيش شخرا وتراب مدور بلورو رانا في دوله رسمي عايش بلادنا خسره فرصه
في الطورة وكافحت في كل وقت عن صالح المجاهدين.
فات الفايدة وحنا جميل اسمات وبينا المصير واحد للبعد وزير لي ذهبنا ثم لي قدمتوا للعيب اليوم انا تخاسروا معكم ديجا عقنا وماسلوا منكم مدريقة وماسكون بيزيبهم شجرهم.
C'était un groupe d'Insala qui rappait sur en protestation contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Donc, alors, on va vous faire un petit résumé de ce qui se passe là-bas. Ça fait déjà presque 2 mois, en fait, que les populations du sud de l'Algérie sont mobilisées contre l'exploitation du gaz de schiste là-bas. Donc, alors, le cœur du mouvement est à Insala. Il y a eu une grande manif, donc le 24 février, il y a 3 jours. Hein, c'est ça, 24 février, il y a 3 jours, à Alger, donc pour protester. Alors il y a eu aussi pas mal de manifs dans d'autres villes, donc à Oran, à Tamanrassé, à Boumerdès, à Batna, désolé pour les noms, j'ai du mal un peu à les lire. Donc voilà, donc en fait, c'est pour dire que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, qui au début était uniquement... Le mouvement a commencé début janvier et c'était uniquement dans la région proche d'exploitation du gaz de schiste, c'est-à-dire la région d'Insala. Et petit à petit, les gens commencent un peu le mouvement se répand. Donc là, il y avait eu. Alors, je vous lis quelques slogans qui ont pu apparaître pendant la manifestation, qui était halte à l'exploitation immédiate du gaz de schiste, ou la honte, le gouvernement a cédé le Sahara pour quelques dollars. Parce que, alors, il faut savoir que, en fait, les régions d'exploitation, c'est de fait des régions désertiques, mais et que du coup, il y a pas mal de sociétés étrangères, dont on va en citer une, Total par exemple, qui détient un certain pourcentage assez important, presque 50% de l'exploitation du sol par là-bas. Donc voilà. Alors, on peut souligner que la mobilisation là du 24 février coïncide avec le 44e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures en Algérie. Et oui, alors donc, et la société, alors merde, j'ai plus le nom sous les yeux. Bon bref, je vous le dirai pas. Bref, que dire. Je suis perdu dans mes papiers, je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, en fait, il y a une grosse mobilisation. Donc il y a une manif le 24 février. Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, le gouvernement algérien, il plie absolument pas. C'est-à-dire qu'il continue dans la course à l'exploitation. C'est-à-dire que toutes les démarches qui sont faites actuellement en Algérie, c'est de la prospection et, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ils expérimentent des puits, etc. Et donc là, malgré tous les mouvements de protestation depuis début janvier, alors il faut savoir qu'à Insala, c'est quasiment la grève générale là-bas. Il y a beaucoup de voies qui sont bloquées, il y a même eu des morts aussi. Hein, c'est pas juste, c'est vraiment pas anodin. Non, mais c'est vrai. J'en ai dans à côté de moi qui rifouille. mais du coup, le gouvernement, en fait, il s'en fout un peu et il décide quand même de continuer de faire l'exploitation. Donc, il y a un nouveau puits qui va être exploité, qui va être ouvert. Alors, je me souviens plus du nom de la région parce que du coup, je me suis perdu dans mes papiers, donc je peux pas vous donner le nom de la région. Donc voilà. Mais que dire?